Bonjour chers auditeurs, nous sommes le vendredi 3 novembre et c'est l'heure du 17-18 en direct sur les ondes de Radio Présence Figeac. Armangal, très heureux de vous retrouver à quelques heures du week-end. Un beau programme vous attend avec en fin d'heure Pascal Laurière dans Chemin de Traverse sur l'estuaire de la Charente. Je vous parlerai d'Halloween au musée Champollion, les écritures du monde de Figeac dans l'agenda, ainsi que d'une halte peinture et prière du côté du grand couvent de Gramat dans l'agenda diocésain. Le coup de cœur TV et ce soir on va retrouver un célèbre boxeur. Je vous parlerai cinéma avec Mathieu de l'Astrolabe Grand Figeac. Annie et Hélène seront là avec aujourd'hui une recette à base de potiron. Le sujet du jour dans lequel j'ai prêté le micro de Radio Présence Figeac à la journaliste culture Mathilde Alaïs. Elle reçoit la comédienne Florence Pernel et le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre pour échanger sur leur pièce qui se joue actuellement jusqu'au 19 novembre au théâtre La Bruyère à Paris. Dans quelques instants, je vous dévoile les informations locales, mais tout de suite, je vous dis la météo locale.
La météo.
Pluie aujourd'hui, le parapluie est encore de sortie avec des maximales jusqu'à ce soir 10 degrés. Ce week-end, pluie toute la journée de samedi et dimanche, une amélioration est à prévoir pour l'après-midi, une amélioration qui arrivera par l'ouest. Cahors sera donc plus au sec dimanche après-midi que Figeac. Comptez demain matin entre 5 et 10 degrés. L'après-midi, 10 à Sévérac-le-Château, Montredon, Rodez et la Capelle Marival, 11 degrés à Quissac et Figeac, 12 à Gramat et Saint-Céré, 13 degrés pour Vérac, Cahors et Villefranche de Rouergue. Dimanche matin entre 5 et 12 degrés, l'après-midi, 14 degrés de maximal. Gardez bien votre parapluie pour ce week-end et si vous habitez l'ouest du Lot, vous pourrez passer une partie de l'après-midi de dimanche au sec. Et tout de suite, voici les informations locales. La météo pluvieuse dans l'Lot depuis quelques jours annonce le retour et oui des champignons dans les forêts pour le plus grand bonheur des adeptes, mais attention, il ne faut pas négliger les bonnes pratiques lors des cueillettes. Plus de 600 cas d'intoxication en France ont été recensés par le centre antipoison à cause d'une confusion entre différentes espèces ou encore la consommation de champignons comestibles en mauvais état, mal conservés ou insuffisamment cuits. Soyez donc vigilants et assurez-vous d'avoir les bonnes informations. Placés sous la responsabilité de praticiens hospitaliers, ils sont 33 internes à constituer la nouvelle promotion 2023 au centre hospitalier de Cahors. Un chiffre record jamais atteint par l'établissement public, tant en nombre de candidats qu'en termes de provenance géographique. Certains arrivent en effet de Toulouse, d'autres de Lyon, Tours, Bordeaux et Paris, et même de pays étrangers, Algérie, Bénin et Tunisie, dans le cadre d'une convention de coopération internationale. Timbre, carte postale, monnaie, militaria, le salon des collectionneurs déballe ses trésors à l'espace Valentré à Cahors pour une 48e édition. Une journée pour acheter, vendre ou échanger les perles rares. Rendez-vous le 11 novembre pour les passionnés ou les curieux. Chaque année, ce sont presque un millier de visiteurs qui franchissent le pas de la porte. Les collectionneurs qui sont à la recherche de la perle rare qui viendra gonfler les rangs de leur collection, mais aussi les curieux qui viennent admirer les objets des autres. La pluie devrait s'inviter tout le week-end sur notre département, mais pas question de la laisser jouer les troubles faites. De nombreux événements sont au programme avec, par exemple, je vous invite à aller à la 23e foire au vin et fromage de France à Anglars-Juillac. C'est organisé par l'association Au plaisir du goût. Elle se tiendra tout le week-end dans la salle des fêtes et sous un chapiteau de 500 m². Très attendue, cette manifestation a pour but de faire découvrir aux visiteurs de très bons produits de France où la gastronomie est un patrimoine. Jeudi 26 octobre s'est tenue pour la deuxième fois à l'état-major cadurcien des pompiers du Lot la journée des membres de la réserve citoyenne. Ce sont tous d'anciens sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS du Lot. À cette occasion, 23 des 28 réservistes étaient présents. La synthèse de fin de journée a permis, au travers des retours positifs, de valider le principe de cette journée et son format. Rendez-vous est donc pris pour 2024. Samedi 28 octobre, il y avait beaucoup de monde à Cahors, du côté d'Emmaüs, zone industrielle d'Anglandière, dans la boutique des jouets malgré sa discrétion. Et oui, on l'a quand même vu, c'est bien le Père Noël qui est passé faire du repérage. À tous ceux qui veulent avoir une chance de le rencontrer ou poursuivre son exemple, rendez-vous pour l'ouverture exceptionnelle d'Emmaüs Cahors, dimanche 12 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Il y aura des affaires exceptionnelles à faire avec d'importantes remises de prix dans les boutiques. Toutes les personnes de bonne volonté se retrouveront chez l'abbé Pierre. Le talent n'entend pas le nombre des années. Le jeune plongeur du club des Compagnons de Neptune de Cahors, Tom Sicard, vient en apporter une nouvelle preuve. Âgé de seulement 9 ans, le Cadurcien représentera la région Occitanie lors des championnats de France de plongée qui vont se dérouler ce samedi 4 novembre à la piscine Léo Lagrange du côté de Toulouse. Enfin, pour terminer de la pétanque, la boule figeacoise entamée samedi 28 octobre son championnat des clubs en se déplaçant à Casale. Malgré plusieurs absences liées à de petits pépins physiques, l'équipe a obtenu un succès probant 21 à 19. Allez, tout de suite, le sujet du jour sur le thème d'une pièce qui se joue actuellement à Paris.
Présence à Figeac, 97.7.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Florence Pernel et Jean-Philippe Daguerre pour la pièce 8e ciel. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, tout d'abord, Jean-Philippe, je souhaiterais savoir quelles ont été vos motivations à justement rédiger cette pièce.
Moi, j'ai pas vraiment de motivation, mais je cherche des sujets comme ça. J'ai un tilt dans la tête et j'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit qu'il s'occupait de prendre en charge des gens célèbres et riches au moment de la retraite, qui ont eu des grandes activités ou des hommes politiques, des grands chefs d'entreprise, et que c'était son métier. Je trouvais ça étrange, avoir besoin, quand on a eu un temps de succès dans la vie, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de psychologiquement. Donc ça a été le début du sujet de la pièce.
Je ne savais pas.
Maintenant, tu le
D'accord.
sais. Ça sert à ça, les interviews.
C'est bien, je découvre.
Il y a plein de choses que tu vas découvrir.
Oui, oui, j'ai écouté avec attention.
Et alors, Florent, justement, qu'est-ce qui vous a touché dans le personnage d'Agnès et comment vous l'avez abordé?
Alors, déjà, moi, je voulais absolument travailler avec Jean-Philippe Daguerre parce que j'adore ses pièces, j'aime beaucoup l'homme de théâtre, l'homme tout court.
Très bonne réponse,
voilà.
Déjà.
Non, mais vraiment, j'avais très envie. Voilà, on se tournait autour, on se disait que ça serait une chose possible, etc. Et quand Jean-Philippe a proposé le rôle dans le 8e ciel, donc le rôle d'Agnès Duval, en fait c'est un rôle qui tombe à merveille dans ma vie, d'abord parce que j'ai l'âge du personnage, que c'est une femme qui a réussi, c'est une femme puissante, alors non pas que je sois une femme puissante, mais je pense que dans ma vie j'ai réussi 2-3 trucs, donc j'ai une certaine stabilité, et qu'en fait cette Agnès Duval qui s'est construite contre vents et marées, et je dirais surtout pour elle, et de façon, je dirais, égotique, et certainement très épaulée par un mari qui a accepté d'être dans l'ombre et d'éduquer leur fille, etc. À l'apogée de sa gloire, elle décide de s'arrêter, de prendre une retraite anticipée, et elle pense qu'elle va pouvoir continuer à vivre dans cette forme de confort, et rien ne va se passer comme prévu, puisque déjà son mari va la quitter, parce que le simple fait de vivre avec elle et non pas à côté d'elle change complètement la donne, et elle va tomber, elle chute, et dans cette chute elle rencontre son jardinier qui va lui ouvrir un monde qu'elle ne connaît pas, puisqu'il va lui proposer d'être remplacée par un couple de migrants géorgiens qu'elle accepte un peu de mauvaise grâce, et petit à petit elle va s'apercevoir que s'occuper d'autre chose qu'elle-même va certainement lui ouvrir un autre monde, une forme de rédemption, une forme du 8e ciel.
Et justement, en parlant du mari, je trouve qu'il a quand même des propos assez durs à l'égard de sa femme.
Oui, c'est sans doute des propos durs, mais je trouve que ce sont des propos très justes. C'est-à-dire que cette pièce, au fond, on donne raison au mari, mais on donne aussi raison à Agnès. Tous les deux ont raison, quelque part, dans leur position. C'est juste qu'on ne peut pas sauver le monde, c'est juste. C'est juste qu'on n'est pas forcément faite pour ça. Mais elle va essayer de lui prouver que, justement, on peut, en choisissant un autre chemin, une seconde chance, ce qui est souvent le cas dans le théâtre de Jean-Philippe Daguerre, on peut avoir accès à un autre monde, une autre culture, et s'ouvrir à l'autre, grandir.
Alors dans cette pièce, on rit énormément. Je voulais savoir quel était votre parti pris artistique du point de vue de la mise en scène.
Moi, j'ai pas de point de vue en soi. Il y a tout d'un coup des choses qui apparaissent. Je travaille un peu sans vouloir faire le malin à l'inspiration, et quand j'écris, quand je mets en scène. Donc les choses, elles apparaissent assez vite, instinctivement. Donc non, le parti pris, j'ai pas un parti pris. J'essaie de diriger un jeu assez droit, assez rythmé. J'aime un théâtre qui soit direct et non pas un théâtre qui soit trop cinématographique. j'essaye de ne pas confondre, j'adore le cinéma, mais j'essaye de faire qu'on ne joue pas au théâtre comme dans la vie. Les temps de la vie ne sont pas les temps du théâtre. Donc je demande à quelque chose d'un peu plus investi et plus rythmé. On ne prend pas les mêmes temps. Il ne faut pas tomber dans un théâtre de conversation. J'aime un théâtre d'action qui avance, tout d'un coup il y a du suspense, il y a des émotions. Bah, c'est, j'aime bien créer cette tension presque présente et non pas quelque chose d'un petit peu posé où on discute. Je n'aime pas le théâtre de discussion, j'aime un théâtre d'engagement.
C'est vrai, je confirme.
Et est-ce que tous les deux, vous pensez que cette pièce a peut-être vocation à mettre fin aux préjugés qu'on peut avoir à l'égard des bourgeois un petit peu ?
C'est une pièce dont on ne sort pas, je dirais pas indemne, c'est un grand mot, mais en tous les cas, je pense que c'est une pièce qu'une fois que vous la quittez, il y a une envie de conversation et il y a une envie de discussion par rapport à un vrai sujet, parce qu'il y a plusieurs sujets abordés. Il y a effectivement qu'est-ce que c'est que la vie après avoir eu une activité professionnelle intense, à succès, etc. Qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête ? Et aussi, qu'est-ce que c'est que s'ouvrir à l'autre ? Qu'est-ce que c'est qu'accepter une culture différente, un monde différent, des souffrances différentes, finalement, dans un monde, en tous les cas, dans le monde d'Agnès Duval et de Pierre Duval, un monde protégé ?
De toute façon, quand ça on fait du théâtre, on a toujours envie de changer le monde, mais c'est toujours pareil, le monde il est petit, il est grand. Donc le petit monde qui vient, on a toujours envie de faire écho à ça. C'est pour ça qu'on est client en tant que spectateur du théâtre, parce qu'on a toujours envie de penser que ça change un peu les choses. On pense que le théâtre dans une société est un peu obligatoire, est essentiel. Donc c'est vrai que nous on défend un théâtre en pensant que c'est essentiel, mais on sait très bien que malheureusement ça ne suffira à ces petites gouttes d'eau, mais la goutte d'eau
elle fait la rivière.
Elle fait la rivière, donc voilà, c'est une goutte d'eau de plus dans la rivière, en espérant de donner envie d'avoir confiance dans les gens, de se livrer, d'enlever un peu les préjugés qu'on peut avoir et de comprendre que les petits ont besoin des grands et les grands ont besoin des petits. Ça c'est un peu le message le plus important, c'est le besoin des uns et des autres avec humilité et la notion d'amour, qu'elle soit chez les pauvres, chez les miséreux, chez les migrants ou chez les riches, elle est la même. La notion de l'amour d'un enfant ou d'amour d'un couple, de réussir cette vie-là, ce pari-là, ça n'a pas d'étiquette ni de nationalité, ni de raison sociale. C'est un truc d'humain et donc il faut qu'on remette l'humain au centre du théâtre et au centre de nos vies. C'est pour ça que j'ai eu envie de raconter cette histoire avec optimisme.
Et alors une des particularités de cette pièce, c'est qu'il a de nombreuses références, notamment à Buster Keaton à un moment donné. Mais il y a aussi la présence de la musique, notamment de la pratique du violon. En quoi c'était important pour vous ?
Parce que j'adore mélanger la musique toujours dans mes spectacles. Je suis un fan de musique et c'est vrai que j'aime bien trouver toujours des formes artistiques qui font partie de la vie des protagonistes de mes pièces. Donc c'est pour ça que c'est pour moi important. Et puis Buster Keaton, tout ça, le cinéma, c'est vraiment d'une anecdote que j'ai vécue en allant à Marrakech en avion, où on était dans un avion avec des gens de toutes les religions et avec des gens très croyants, des Arabes, des Juifs, des Français, de tous les... Et tout d'un coup, il y a eu un extrait sur la vidéo d'un film de Buster Keaton et tout l'avion s'est mis à rire ensemble et j'ai trouvé ça magnifique comme symbole. Donc j'ai tout de suite pensé à Buster Keaton, à cette scène qui m'avait bouleversé, voir comment tout d'un coup, toutes nos cultures, toutes nos origines, tous nos a priori, face à un type de génie, face à l'art, face au clown, face à la comédie de la vie, tout d'un coup on est ensemble et on rit ensemble.
Justement, par rapport à votre personnage, le violon aussi correspond à l'éclosion du personnage aussi.
Oui, parce que c'est un instrument qu'elle avait pratiqué quand elle était petite et on comprend que quelque part elle a mis beaucoup de choses de côté dans sa vie, certainement pour réussir. Et je pense que pour réussir à ce niveau-là, il faut vraiment tuer beaucoup de choses de sa personnalité pour être sur un seul rail. Et être une femme puissante, une femme qui dirige, donc qui dit BTT, dit forcément des équipes, donc beaucoup d'équipes d'hommes, etc. Donc c'est une femme masculine. Et je pense qu'elle a certainement mis beaucoup de sa sensibilité, de son émotion de côté. Et étant donné qu'elle a été aussi très épaulée par son mari qui a pris, je dirais, cette place-là dans sa vie, d'ailleurs elle le dit, tu ne m'as jamais laissé de place pour m'occuper des autres, parce que je pense qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle ne s'est pas accordé ce temps. Et donc le violon revient effectivement, elle se remet à jouer et elle retrouve des sensations, c'est ce qu'elle dit. Donc c'est un voyage, c'est vraiment une traversée qu'elle fait pour se redécouvrir elle-même. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup dans le théâtre de Jean-Fils, c'est qu'elle dit à un moment donné que ce qu'elle fait, elle ne le fait pas seulement pour eux, elle le fait avant tout pour elle. Et c'est vrai, je pense qu'en fait, on fait du bien aux autres certainement aussi pour se faire du bien à soi. Et ça, c'est très important parce que il y a dans la bonté, au fond, quelque chose de bon pour soi. Et j'aime ce qui est dit dans cette pièce pour ça.
Et un des autres aspects aussi éminemment importants, c'est le lien aussi mère-fille.
Ah oui.
Parce qu'on a l'impression que votre personnage est un petit peu défaillant de ce point de
vue. Encore une fois, je pense que c'est une femme qui a mis absolument tout de côté pour réussir, pour être au sommet de son métier. Et donc, la fille, quelque part, elle l'a laissée élever par son père. Ça l'a bien arrangé. Encore une fois, ce sont des arrangements de couple qui ont duré pendant des années et qui, là, tout d'un coup, éclate et donc le couple ne se retrouve plus. Et effectivement, il y a une incommunabilité entre la fille et la mère parce que certainement que pendant toute l'enfance de la petite fille, il n'y a pas eu cette communication. Elle a relayé, quoi. Et là, elle est confrontée et les enfants vous renvoient toujours ce que vous leur avez donné ou pas. Et donc la fille lui renvoie son incapacité de mère. Et ce qu'il y a de beau, c'est que justement, avec les migrants, elle retrouve une forme de maternité, oui, de tendresse, d'abandon qu'elle avait totalement occulté jusque-là.
Et alors, un des autres aspects également, il y a cette chaise qui, pour moi, est un petit peu vecteur du drame lié au couple. En vrai, c'était important d'utiliser justement un objet qui correspond à ce moment-là.
J'aime bien regarder cette forme de fauteuil électrique.
Fauteuil de compétition.
De compétition qu'on lui a offert à la retraite. Et c'est vrai que j'aime bien symboliquement cette trace d'un objet qu'on suit au fur et à mesure de son évolution. Au moment où il est mis de côté, puis à la fin, je ne vais pas révéler la fin, parce qu'il y a quand même un coup de théâtre. Tout d'un coup, il devient l'endroit, en tout cas l'endroit de la naissance. Après, c'était le symbole de la petite mort de la retraite. Finalement, c'est celui de la renaissance. Donc c'est vrai que j'aime bien utiliser parfois des objets un peu qui deviennent un peu vivants. Et j'essaye d'en faire un objet vivant au sein du théâtre vivant.
Et quel procédé vous avez utilisé pour rendre les personnages de Tasha et Masha éminemment affectueux et intéressants?
Je pense que l'art de l'acteur y est pour beaucoup. Je pense que c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai que le théâtre, c'est toujours le comédien qui est au centre de tout. Vous avez beau imaginer quoi que ce soit, écrire quoi que ce soit, celui qui transcende la parole et l'évidence, c'est le comédien. Donc là, voilà, dans chacun d'entre eux, c'est vrai que eux, ce sont en Paris, on n'est pas là pour faire quelque chose de réaliste. Ils font des migrants géorgiens, ils sont français, mais il y a c'est une façon de s'emparer. Parfois, quand on s'empare de quelque chose qui a l'air d'être un peu lointain, on y met un tel cœur à le faire bien, essayer de rendre ce qui sort, que ça rend les choses encore plus magiques que si on prend des vrais géorgiens. Je ne sais pas que j'ai rien contre les acteurs géorgiens ou autres, mais j'aime bien parfois cette distance qui permet à l'acteur d'incarner quelque chose qui agrandit les choses. Je trouve qu'ils réussissent vachement le pari, qui est un pari difficile.
Ouais. Bien, merci à vous deux.
Merci beaucoup, merci.
Merci à vous tous.
Merci.
Radio Présence à Cahors, 92.5.
Tarte au potiron et au parfum des bois. C'est ce que nous propose d'aborder Hélène Yannine. Bon appétit. Bon appétit.
Bon appétit, l'émission sur les recettes de cuisine et les secrets culinaires. Une émission présentée par Hélène et Anisette.
Alors bonjour et bonne semaine. Alors Hélène nous a préparé peut-être quelques bonnes choses.
Alors bonjour à tout le monde. Je vous propose une tarte au potiron au parfum des bois. Alors pour 4 personnes, il vous faut 700 g de potiron que vous allez bien sûr couper en morceaux.
Il nous faut éplucher.
Oui, voilà. Il vous faut 50 g de beurre, du sel, du poivre, de la muscade, de l'huile, 100 g de cèpe émincé ou d'autres champignons, si vous avez des girolles, des trompettes de la mort, des pieds de mouton, au choix du client. Il vous faut une gousse d'ail, 2 œufs, 25 cl de crème fraîche, de la farine pour fariner votre plan de travail, 250 g de pâte feuilletée et 200 g de jambon de pays. Alors, vous commencez par éplucher le potiron pour vous enlever les graines, vous coupez en morceaux, et dans une sauteuse, vous faites fondre le beurre et vous faites revenir et cuire tout doucement à couvert vos morceaux de potiron. Alors au début, on remue pendant 3-4 minutes pour que ça colle pas.
Et, oui.
Et après, en faisant cuire à couvert doucement, avec la vapeur qui redescend, votre potiron il cuit sans se noyer.
Ah oui, ça c'est bien.
C'est important parce que sinon après votre purée elle va être trop noyée, c'est pas bon. Dans une poêle, donc, vous avez préparé les champignons, ou vous les avez au congélateur tout prêt, ou en bocaux tout prêt, voilà. Vous préchauffez votre four, thermostat 6 ou 7, 6-7, suivant comment il chauffe fort. Dans un saladier, vous cassez les œufs, vous les battez avec la crème fraîche, vous râpez un peu de noix de muscade, vous salez et vous poivrez en douceur. Vous étalez la pâte feuilletée sur le plan de travail. Alors, si vous êtes courageux, vous l'avez fait avant. Moi, c'est le genre de choses que je ne fais jamais, la pâte feuilletée. C'est un principe, je l'achète toute prête parce que c'est trop casse-pied à faire pour mon goût.
Trop long.
Mais après, chacun ses goûts, il y a des gens qui le font et ils le font ça très bien. Donc, vous étalez votre pâte feuilletée, vous garnissez un moule à tarte, bien sûr. Sur la pâte, vous déposez votre potiron cuit, vous étalez bien sur toute votre fond de plat. Vous y parsemez de jambon coupé en morceaux ou en lanière fine. Vous y parsemez ensuite les champignons. Et par-dessus tout ça, vous versez le mélange d'œufs et de crème fraîche et vous enfournez pour 30 minutes. Voilà.
Mais peut-être les... tu reprends
Les ingrédients les pour 4 personnes.
Les ingrédients, voilà.
Alors, 700 g de potiron. Vous pouvez utiliser du potimarron, du potiron rouge vif d'Étampes, pour les plus connus, ou même de la butternut.
Oui, ce qu'on veut, quoi. Et maintenant,
oui, voilà. Après, si vous avez un potiron qui n'est... pas trop plein d'eau, comme j'allais dire, entre guillemets, la citrouille classique.
C'est ce que je pensais, voilà, la grosse citrouille, oui.
Voilà, moi je préfère les potirons comme la butternut, parce que ça coule moins. Mais après, on fait avec ce qu'on a, et puis c'est pas
tout
grave.
Tout à fait,
ça marche très bien. Donc, il vous faut 700 g de potiron, 50 g de beurre, du sel, du poivre, de la muscade, de l'huile, 100 g de cèpe ou de champignons.
Ce qu'on veut.
À cette saison, les trompettes de la mort, il y en a à foison, profitez-en.
Ah bon.
Une gousse d'ail pour mettre dans les champignons, mais ça c'est facultatif, c'est suivant les goûts de chacun.
Ça relève quand même.
Ça relève quand on l'aime. Il y a des personnes qui ont du mal à le digérer, donc voilà. Et il vous faut 2 œufs, 25 cl de crème fraîche, et 250 rouleau de pâte feuilletée et 200 g de jambon.
Bon appétit, l'émission sur les recettes de cuisine et les secrets culinaires. Une émission qui vous a été présentée par Hélène et Anisette.
Allez, il est l'heure de parler cinéma et comme d'habitude à la fin de cette chronique ciné, une question et à gagner une place valable dans les cinémas de Figeac et de Cap-de-Nac. Bonne chance à toutes et à tous et bonne séance ciné. Lot Ciné, votre émission cinéma sur Radio Présence dans le Lot. Un partenariat avec l'Astrolabe Grand Figeac. Cette semaine, je suis avec Mathieu pour vous dévoiler le programme des cinémas du Grand Figeac. Bonjour Mathieu.
Salut Armand.
Semaine du 1er au 7 novembre et on commence avec un film qui s'intitule L'été dernier.
Oui, de Catherine Breillat qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans derrière la caméra. Là, elle revient avec Léa Drucker, Samuel Kircher et Olivier Rabourdin. C'est l'histoire de Anne et Pierre, son mari, et de leur fille de 6 et 7 ans, mais aussi l'histoire de Théo, 17 ans, fils de Pierre d'un précédent mariage, qui décide d'emménager chez eux. Alors son père y voit une superbe opportunité pour se rapprocher de son fils, malgré voilà, des relations un petit peu tendues. Mais voilà, bientôt Théo apprend à son père qu'il entretient une relation avec Anne, donc sa femme, ce qu'elle nie évidemment fermement. C'est visible à Figeac pour 5 séances.
On continue avec un drame, La Petite.
Oui, un très très beau film à mon avis, de Guillaume Niclou. Guillaume Niclou qu'on est plutôt habitué à voir dans des documentaires. Il avait fait Les Rois de l'Arnaque sur la fraude à la taxe carbone en 2021 et L'Enlèvement de Michel Houellebecq, un film assez étrange, une vraie fausse fiction, bon bref, en 2014. Là il revient avec une vraie fiction avec Fabrice Luchini, Marat Taquin et Maud Wheeler. C'est l'histoire de Joseph qui apprend que son fils et son compagnon viennent de périr dans un accident d'avion. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse. Joseph se sent légitimement le grand-père de cet enfant à venir, mais la jeune et farouche flamande ne se sent plus vraiment engagée dans ce projet avorté.
Que va-t-il se passer dimanche 5 novembre à Figeac ?
Eh bien, il y aura la projection d'un documentaire de Xavier Gaillan, qu'on connaît un petit peu, parce qu'il était venu il y a quelques semaines présenter Roland Gory, Une époque sans esprit. D'ailleurs, il sera là pour nous présenter au Clémenceau. Donc, le Clémenceau, c'est un bar PMU où se côtoient SDF et habitués des hôpitaux psy, gratteurs de la Française des Jeux ou leveurs de coudes d'un soir ou de tous les soirs, on ne sait pas. La plupart souffrent d'addiction, ils sont le pouls d'une France déchirée. Ici, c'est une famille, une estrade, un ancrage. Ce sera, comme tu l'as dit, le dimanche 5 à 18h au tarif de 4 euros à Figeac.
Autre film, La Guerre des Dieux. Je vous fais l'honneur de dire le titre entier, Mathieu.
La Guerre des Dieux, Yangchan, de Ji Zhao. Bravo. C'est un film d'animation, merci. Donc Yangchan, c'était autrefois un dieu, mais voilà, il n'est plus qu'un simple tueur à gages, on va dire. Mais voilà, son passé refait surface quand une femme lui propose une mission. Les créatures mystiques ne lui feront aucun cadeau, quitte à déséquilibrer le monde. 5 séances à Figeac comme à Cap-de-Nac.
Un peu d'horreur maintenant avec un film que vous aviez proposé la semaine dernière dans le cadre d'Halloween.
Tout à fait, L'Exorciste Dévotion. Donc c'est toujours en français. Si vous avez raté la soirée Halloween, donc déjà il fallait pas la rater, c'était une très bonne soirée. Mais il y a quelques séances en plus. Donc c'est l'histoire de Victor Felding qui s'occupe seul de sa fille Angela suite au décès de sa femme qui était enceinte il y a 12 ans. Et puis voilà, un jour Angela et son amie Catherine vont jouer dans les bois, mais elles disparaissent pendant 72 heures. À leur retour, plus aucun souvenir. À partir de là, d'étranges phénomènes vont apparaître. Désespéré et terrorisé, Victor va faire appel à une personne qui a déjà eu affaire à de tels événements, Chris McKnee, donc l'héroïne principale de L'Exorciste de 1974.
Aïe, aïe. Alors la semaine dernière, Mathieu, visiblement, Linda n'a pas eu sa dose de poulet, puisque cette semaine, elle en veut encore.
Et ouais, c'est ça. Et nous aussi, on veut revoir ce film qui était tout à fait original. Donc c'est pour les 6 ans et plus. C'est un film d'animation franco-italien de Chiara Malta et de Sébastien Lodenbach. C'est veille de grève à l'école et Linda est punie pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, voler la bague de sa mère Paulette. La punition, c'est aller dormir chez sa tante, donc ça va, c'est acceptable quand même comme punition. Mais voilà, Paulette se rend compte qu'elle s'est trompée. Linda n'a rien volé et n'a pas menti. Alors pour effacer cet affront, Linda demande un poulet au poivron. Et là, il y a deux problèmes, c'est que sa mère est une piètre cuisinière et que c'est aussi jour de grève, hein, donc tout est fermé, il va falloir trouver un poulet par n'importe quel moyen.
Eh bien, cette semaine, vous proposez une animation sur un gentleman non pas cambrioleur, mais provocateur.
Oui, c'est la rétrospective Louis Malle. Donc on va commencer, donc ce sera le mercredi 1er novembre, 3 films. Donc le premier à 15h, ce sera La Combe Lucien, sorti en 1974. L'histoire se passe, d'ailleurs vous pouvez trouver le DVD à la médiathèque, je dis ça au passage. L'histoire se passe en juin 1944. Lucien a 17 ans et aimerait entrer dans le maquis. Et voilà, on le refuse. Et il est embrigadé de force par la police allemande, où il rencontre Franz Horn, beaucoup plus âgé qu'elle. Petite anecdote quand même sur ce film, il y a beaucoup de plans qui ont été tournés à Figeac et aux alentours, donc c'est l'occasion de revoir un peu la ville dans les années 70 et de croiser aussi un acteur qui a eu une carrière éclair, hein, puisque quand il tourne La Combe Lucien, il a 19 ans et il perdra la vie un an plus tard à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, son village natal. Donc une carrière vraiment éclair, et ça, c'est dommage, ça augurait de belles choses, mais bon. On enchaînera à 18h avec Vie privée, avec deux monstres du cinéma. Je veux bien évidemment parler de Brigitte Bardot et Marcello Mastroianni. C'est tourné en 1962, c'est l'histoire d'un amour impossible entre Jill, qui est danseuse, issue de la petite bourgeoisie genevoise, et Fabio, qui est plutôt éditeur, homme de lettres. Donc elle s'enfuit à Paris, et elle réussit à Paris puisqu'elle devient vedette de cinéma. Mais voilà, petit à petit, à cause des paparazzi, elle va doucement perdre le contrôle de sa vie. Et on finira à 21h avec Atlantic City, sorti en 1980. avec Burt Lancaster, Suzanne Sarandon et Michel Piccoli, et aussi le tout jeune Robert Joy. Vous ne connaissez peut-être pas, mais si vous allez voir sa photo, vous allez dire « Mais oui, bien sûr, je l'ai vu dans plein de films ». C'est l'histoire de Dave et Sally qui sont séparés. Mais voilà, exceptionnellement, Sally héberge Dave. Et puis bah, Dave, il trouve par hasard un sachet de drogue qu'il va, et donc il va se faire aider par Lou, qui est un voisin de Sally, pour l'écouler. Après tout se passe, enfin l'affaire se passe bien, mais jusqu'à ce que Dave se fasse tuer, et donc Lou et Sally vont se rapprocher et vont pouvoir espérer de jours meilleurs avec l'argent de la vente. Voilà pour la rétrospective Louis Malle.
Mais dis donc, un beau programme, Mathieu. Oui. Un autre film maintenant, ou un film d'ailleurs, où vous proposez cette fois-ci un triangle amoureux, je crois.
Exactement. Donc c'est, alors on ne sait pas trop comment dire, est-ce que c'est un film français ou est-ce que c'est un film anglais, parce que le réalisateur c'est quand même Woody Allen. Mais par contre, oui, au casting, on va retrouver Lou Delage, Melville Poupeau, Neil Schneider, Valérie Lemercier, Elsa Zilberstein, Grégory Gadebois et Sarah Martins. Donc que des Français. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un film français, bon, réalisé par Woody Allen. Coup de chance, donc, c'est, comme tu l'as dit, un trio amoureux, un couple parfait, amoureux comme au premier jour, et puis, voilà, la rencontre fortuite qui va bouleverser une vie, deux vies, plusieurs vies, en fait. Ce sera à voir à Cap-de-Nac uniquement, en VO et en VF.
Alors actuellement, Mathieu, je ne suis pas équipé pour aller dans le désert, mais je crois que sur le programme ciné, vous proposez le film désert.
Effectivement, c'est tourné au Maroc. C'est un film qui est sorti en 2022, donc il a mis un petit peu de temps à arriver jusqu'à chez nous. Mais je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est en VO, c'est une comédie loufoque, hein, où on va retrouver Mehdi et Hamid, qui sont salariés dans une agence de recouvrement et qui sont menacés d'être mis à la porte si les chiffres ne s'améliorent pas, parce que ce sont des piètres agents de recouvrement. Donc ils partent tous les deux dans le grand sud marocain pour qu'on leur rende l'argent prêté et souvent dilapidé pour des raisons tout aussi vraiment farfelues des fois. Donc un voyage aux accents de western, loufoque, poétique et plein d'allégories. C'est en VO à Cap-de-Nac, mais malheureusement c'est pour deux petites séances
seulement, donc faudra y aller. Voilà. En conclusion de cette semaine, que va-t-il se passer samedi 4 novembre après-midi à Figeac?
Eh bien, on aura un film qui est sorti en 1970, hein, Le Territoire des Autres, un documentaire de Gérard Vienne, François Bell et Michel Fano. C'est pour les 8 ans et plus, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est un documentaire qui a été acclamé à sa sortie, hein, qui pourrait bien servir d'image d'archive, de lointains souvenirs d'un monde à jamais perdu. Bon, en tout cas, avant d'en arriver là, voilà, les animaux qui sont présents dans le film, eux, ont perdu leur territoire. C'est vraiment le sujet du film. Comme tu l'as dit, c'est le samedi 4 à 16h. Ce sera suivi d'un échange avec Federico Rossin. C'est gratuit aussi, venez nombreux.
Merci beaucoup Mathieu, et donc bonne semaine, bonne séance ciné.
Merci, à la semaine prochaine.
La question pour gagner votre place de cinéma: dans le film L'Exorciste Dévotion, où vont jouer Angela et Catherine avant de disparaître? À Disneyland, à la piscine ou bien dans les bois? Je vous répète la question pour gagner votre place de cinéma: dans le film L'Exorciste Dévotion, où vont jouer Angela et Catherine avant de disparaître? Est-ce qu'elles vont jouer à Disneyland, à la piscine ou bien dans les bois? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à nous appeler et à nous laisser un message sur notre standard 0565 348 348 0565 348 348. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail à figeac@radioprésence.com ou encore un petit message privé depuis notre page Facebook Radio Présence Figeac, un petit message donc avec bien sûr la réponse, votre nom et prénom ainsi que vos coordonnées pour que nous puissions vous rappeler. Vous serez tiré au sort pour gagner, je le rappelle, une place de cinéma valable pour les cinémas de Figeac et de Cap-de-Nac. Bonne chance à toutes et à tous. C'était votre émission de cinéma L'Autre Ciné. Sur Radio Présence dans le Lot.
L'agenda diocésain.
On commence avec la journée d'amitié et de fête. Le mouvement chrétien des retraités du Lot invite tous les retraités pour une grande journée d'amitié, de détente et de fête, jeudi 9 novembre à la salle des fêtes de Saint-Jean-la-Gineste. Au programme, rendez-vous à 9h30 pour l'accueil à la salle des fêtes, 10h assemblée générale avec l'intervention de Françoise Glaise, vice-présidente du MCR national, 11h30 messe sur place présidée par Mgr Camiade avec la participation des accompagnateurs spirituels, 13h déjeuner sur place, 14h30 animation par le groupe folklorique Le Trétou du Ségala et 16h30 envoi. Le tarif est de 26€ la journée, animation et repas compris. Renseignements au 06 86 58 07 86 06 86 58 07 86. Pèlerinage des familles paysannes à Rocamadour, ça se passe les 10, 11 et 12 novembre, en présence bien sûr de notre évêque Mgr Camiade. Pour s'inscrire ou pour tout renseignement, rendez-vous sur le www.journée-du-6-paysanne.org, www.journée-du-6-paysanne.org. 7e journée mondiale des pauvres. La journée mondiale des pauvres, signe fécond de la miséricorde du Père, a lieu pour la 7e fois afin de soutenir la marche de nos communautés. C'est un rendez-vous que l'Église enracine progressivement dans sa pastorale pour découvrir toujours mieux le contenu central de l'Évangile. Le dimanche qui précède la fête de Jésus-Christ, roi de l'univers, il vous est proposé de se retrouver autour de sa table pour recevoir à nouveau de lui le don et l'engagement de vivre la pauvreté et de servir les pauvres. L'association Fratello a choisi de placer ces journées sous la protection de la Vierge Marie dans la continuité du thème des JMJ de Lisbonne. Plusieurs sanctuaires mariaux organiseront des événements en France et à l'étranger. Cette journée aura lieu dimanche 19 novembre. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre diocèse ou de votre paroisse pour savoir ce qu'il est fait dans ce cadre. Les saisons de la nature, les saisons de notre vie, halte, peinture et prière au grand couvent de Gramat, ça se passe samedi 18 et dimanche 19 novembre. Pour tout renseignement, contactez Sœur Marie-Cécile ou Sœur Catherine par mail, animation@grandcouventgramat.fr, animation au pluriel, @grandcouventgramat.fr. Voilà pour ces quelques informations religieuses, elles sont à retrouver avec bien d'autres sur le site de notre diocèse www.cahors.catholique.fr. C'est l'heure du coup de cœur TV et ce soir je vous propose de voir le film Creed 3. Une nuit de 2002 à Los Angeles, Adonis Creed accompagne son meilleur ami Damian Anderson, un boxeur très prometteur, à un combat qu'il remporte haut la main. Mais la soirée se termine mal quand Damian agresse violemment un homme devant une supérette. 15 ans plus tard, en Afrique du Sud, Adonis remporte un match en se remémorant une leçon de boxe apprise auprès de Damian des années plus tôt. Sacré champion du monde, il décide de se retirer pour se consacrer à sa vie de famille auprès de sa femme Bianca et de leur fille. Quelques années plus tard, à Los Angeles, Damian sort de prison après avoir purgé une longue peine. Pour voir ce film, rendez-vous sur la chaîne Canal+, c'est ce soir à 21h10. Bonne séance télé.
Présence.
L'agenda local, c'est tout de suite sur Présence Figeac.
L'agenda culturel du jour.
On commence avec le don de sang. Au don de son sang ce mois de novembre dans le Lot, il y a le site EFS de Cahors situé au 34 rue sur le Boursol. Parking d'honneur au ticket gratuit de 45 minutes pour les parkings de l'amphithéâtre et du phare. Ouverture les mardis de 13h à 18h et les vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h. Privilégiez la prise de rendez-vous sur le site mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr. Festitrad d'automne à Montcuq, samedi 4 novembre à l'espace d'animation de 17h à 19h, stage de danse animé par Fabienne Villatte, quadrille et bourrée planière du Quercy, stage sur inscription, au programme accueil à 16h30, participation au tarif de 10€, 19h30, repas partagé, une soupe sera offerte, 21h, bal trad avec les AMTPKR et Quercy Note. Pour tout renseignement ou pour s'inscrire, il reste peut-être encore des places pour le stage, une adresse mail, fabi.villatte@wanadoo.fr fabi.villatte@wanadoo.fr ou plus simplement par téléphone au 06 84 41 55 12 06 84 41 55 12 et sinon pour toute information internet est à votre disposition, c'est le www.mtpcarcy.com. L'association Les Randopathes de Figeac vous propose eh bien, de vous rendre du côté de l'Aveyron pour une randonnée dimanche à Goutrins plus précisément. 19 km sont au programme et 550 mètres de dénivelé positif. Vous serez guidé par Solange Gineste que vous pouvez contacter au 06 89 92 62 27. Solange Gineste au 06 89 92 62 27. Tarif du covoiturage à 7 euros. Départ depuis Figeac à 8h30 dimanche ou sinon directement sur le lieu de départ de la randonnée à 9h30. Rendez-vous au parking de la mairie à Goutrins. Pour toute information, eh bien, je vous répète le numéro de téléphone de Solange Gineste, 06 89 92 62 27. Donc pour cette magnifique randonnée qui vous attend dimanche, organisée par les randopathes de Figeac. Première création de l'année au théâtre de l'usine de Saint-Céry, En apparence de Tony Melville et Marie Levavasseur. Un concert théâtralisé sur le thème des apparences et de nos images, reprenant les codes du show musical. C'est à partir de 6 ans. Rendez-vous vendredi 10 novembre, c'est à 19h au théâtre de l'usine de Saint-Céry. Les tarifs varient de 5 à 12 euros, ça dure une heure. L'équipe artistique du spectacle sera en résidence de création au théâtre de l'usine, en ce moment même, du 30 octobre au 8 novembre. La billetterie, elle, est ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de représentation de 15h à 18h. Le théâtre de l'usine se situe au 18 avenue Docteur Roux, 46 400 Saint-Céré. Téléphone 05 65 38 28 08, 05 65 38 28 08 ou sur le www.scenographe.fr. Pour continuer cet agenda du théâtre à Rocamadour avec un duo, Adrien Benèche et Marc Duranto, dans la pièce « Une de perdue, 10 à trouver ». Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée. Marco, son meilleur ami depuis toujours, est tout son contraire. Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s'attacher. Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre. Au tarif plein de 17 euros, tarif réduit 15 euros. Ça se passe les 3 et 4 novembre à 20h30 et le 5 novembre à 15h. Pour toute information, vous pouvez contacter bien sûr le théâtre Côté Rocher de Rocamadour, donc le Café Théâtre Côté Rocher, au 05 65 10 93 39, 05 65 10 93 39. Le Café Théâtre Côté Rocher de Rocamadour se situe rue Roland-Lepreux. Halloween au musée Champollion, les écritures du monde de Figeac. Au programme Divination, Magie, Sacrifice, Vénération, ces thématiques ont forgé le passé méconnu de nombre des plus beaux objets inscrits au musée. Alors qu'Halloween approche, ou plutôt même vient de passer il y a quelques jours, découvrez tout de même les aspects secrets et parfois effrayants des œuvres des collections. Une visite guidée particulière pour les adultes en ces temps de période d'Halloween. Rendez-vous samedi 4 novembre, c'est à 14h30, au tarif plein de 9 euros. Pour tout renseignant, vous pouvez bien sûr contactez le musée au 05 65 50 31 08, le musée Champollion les écritures du monde au 05 65 50 31 08. Les espèces face au changement climatique, café débat. Nous vivons actuellement une période de changement climatique, la Terre en a connu d'autres dans sa vie. Dans le Quercy, un refroidissement climatique il y a 34 millions d'années enregistré par les fossiles nous en dit long sur l'adaptation ou non des espèces. Comment appréhender celui que l'on vit aujourd'hui ? La parole est libre pour exprimer le ressenti qui alimentera la réflexion pour les objectifs futurs de la réserve. Les cafés débats de la réserve naturelle géologique du Lot sont des temps d'échange conviviaux et apprenants pour mieux faire connaître les missions de la réserve auprès des habitants. Les agents de la réserve préparent actuellement leur action pour les 10 prochaines années. Venez partager leurs réflexions. Un interprète en langue des signes française sera présent pour rendre les échanges accessibles aux personnes en situation de surdité. Rendez-vous samedi 4 novembre de 17h à 19h. Inscription et informations sur le site biweb.fr ou par téléphone 05 65 24 20 50 05 65 24 20 50. Allez, pour conclure cet agenda de l'équitation, challenge départemental du Lot Hunter, ça se passe dimanche, c'est de 8h à 18h au centre équestre de Gourdon, buvette et petite restauration sur place, venez nombreux. C'est la fin de cet agenda, bonne suite à notre écoute.
Présence à Catus 92.5.
Retrouvons maintenant Pascal Laurière avec le cycle d'émissions sur l'estuaire de la Charente. Aujourd'hui, rendez-vous à Foura pour découvrir la flore pour une balade nature. Bonne balade!
Les chemins de traverse, L'Estuaire de la Charente, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. L'Estuaire de la Charente s'étire depuis Thonnay-Charente sur une trentaine de kilomètres. Partie de Thonnay-Charente, nous sommes rendus à l'embouchure du fleuve sur la rive droite, à Fourat. Fourat, où en compagnie d'Anne Richard, botaniste, nous découvrons la flore à la fois maritime et des marais. Bonjour et bienvenue au cœur d'une balade nature en terre charentaise. Partie de la plage de l'Espérance à la limite de Saint-Laurent-de-la-Pré et de Fourat, avec Anne Richard, nous cheminons sur la digue en direction du fort La Pointe. Anne nous fait découvrir avec passion la flore si caractéristique de cette zone.
Ah, on va marcher un peu ?
On continue un peu.
Alors les tamaris, là pour le coup, c'est les seuls qui arrivent à résister aux embruns et à la salinité, au sable, de toutes les plantes arbustives de bord de mer. C'est vraiment le champion, toute catégorie, le tamaris. Regardez, ça c'est une plante que j'aime beaucoup. Là, elle est en fleurs maintenant, en fleurs et fruits. C'est la bête maritime. Là, elle a des feuilles toutes petites parce qu'elle est en fleurs, mais au début, quand elle pousse, c'est une plante qui vit sur 2 ans, une plante bisannuelle. Et au début, à l'automne, les feuilles sont grandes comme ma main au moins, et on les mange comme des épinards. Et ça, quand on habite en bord de mer, pendant 6 mois de l'année, on peut manger des feuilles de bête maritime à la façon des épinards. Voilà. Les bêtes maritimes, ce sont les ancêtres de toutes les betteraves cultivées, que ce soit la betterave sucrière, la betterave fourragère ou la betterave de table. Toutes ces betteraves ont leurs parents sauvages en bord de mer. C'est cette plante-là, une plante qui ne paye pas de mine.
Voilà, la bête ça se mange maritime. Cru, cuit
Non, cru, c'est pas bon. Ça laisse une astringence dans la gorge. Amertume et astringence, c'est pas très agréable. Ou alors en tout petits morceaux quand elles sont très jeunes et en mélange avec autre chose. D'accord. Mais sinon, on les fait cuire et là, on peut les manger en légumes à la façon des épinards. C'est très bon avec un œuf, avec une béchamel ou autre. C'est très bien. On continue ? Bon là on va être un peu protégé du vent avec les tamaris, c'est pas mal.
Ça va faire du bien. Ouais. Alors là on longe une haie de tamaris.
Ah là on est bien, ici à l'abri du vent, c'est plus agréable.
Là, ça se calme.
Ça c'est une petite plage très sympa aussi. Il y a une plante marrante, une forêt en miniature.
Ah oui c'est vrai,
c'est
oui.
Très rigolo,
exact, oui,
très
oui,
rigolo.
Oui.
Ça fait comme un petit sapin. En fait c'est une plante grasse, hein. On l'appelle le pourpied de mer. Elle a des feuilles qui sont de part et d'autre de la tige et ça change d'un quart de tour à chaque fois. Donc on a l'impression qu'elle est en plastique.
Oui, ouais, ça fait vraiment synthétique.
Oui, oui, oui. Et elle protège un petit peu le haut de la plage. Elle fait un couvert intense, on dirait une forêt de conifères. C'est très rigolo. Voilà, une belle plante.
Alors on est rendu sur la plage.
Alors tenez, voilà celle que je voulais vous montrer. Alors là, on peut se mettre à genoux parce que c'est une plante extraordinaire. Le chardon bleu des dunes, ça c'est une plante protégée nationale, l'emblème du conservatoire du littoral. Si on la regarde bien par-dessus comme ça, ici, on voit une collerette,
ouais.
Ça s'appelle des bractées, tout autour de la tête, hein, qui est ce qui ressemble à un chardon, mais en fait c'est pas de la même famille que les chardons. Voilà, son vrai nom c'est le panico maritime. Très très belle plante.
Les chemins de travers, l'estuaire de la Charente.
Joli ce petit plan d'eau là.
Très joli, ouais. Ah ouais. C'est vraiment sympa.
Avec la salicorne.
Qui sort de l'eau là.
Même là-bas, là c'est...
Oh là là,
là
c'est super.
Il y a un bel éclairage.
Ah oh, ouais, c'est chouette. Hein. Toutes les herbes là qui dépassent dans les vagues. Ah, on se lasse pas ici. Tiens, ben, on voit un petit peu le violet des lavandes de mer là-bas. C'est très très délicat. Plein de belles couleurs. Et ça change en fonction des saisons. À l'automne, on a des tons très chauds. Les salicornes, certaines deviennent rouges. Il y a d'autres plantes aussi qui prennent des couleurs un peu orangées, rouges. Voilà. Bon, on a fait pratiquement le tour.
On fait demi-tour ou...
Eh ben oui, on va rejoindre la digue là-bas.
On rejoint la digue.
La plante sifflet. Vous connaissez la plante sifflet ?
Plante sifflet.
C'est ça. On l'accueille et... On vide les graines qui sont dedans. Voilà. Voilà. La plante sifflet. Il y a tout ce qu'il faut là pour monter un orchestre en fonction des tailles. On s'amuse bien avec les enfants quand on vient en balade par là. On fabrique des sifflets avec les plantes.
Chacun sa sonorité.
Oui, oui, oui. Celui-ci, il est plus petit, il est peut-être un peu plus aigu. Ah, c'est une technique, hein.
Ah oui, sûrement, oui.
Ah oui, attention. Ça vient, ça vient. Il doit y avoir encore des choses dedans, des petites saletés dedans. Faut bien les vider pour que ça siffle bien. Voilà. Ça aussi, elle est marrante pour les enfants, celle-là.
Celle-là, elle est grosse. Enfin, c'est, ça fait
une belle plante, une belle plante, ouais, qui fait plus d'un mètre de haut. C'est les pins,
Ah d'accord, c'est
végétaux,
ce qui s'accroche,
aux vêtements.
Oh, mais c'est une jolie fleur en plus, ça aussi.
Une jolie fleur, oui. Ouais, ouais. C'est la bardane, on l'appelle. C'est du velcro. C'est rien d'autre que l'ancêtre du velcro.
L'ancêtre du velcro. Donc là,
et c'est un Suisse qui cherchait un système de fixation en apesanteur pour la NASA. En observant la bardane, cette plante-là, il a vu, tiens, mais ces crochets qui s'accrochent, je vais mettre ça sur du velours. Et il a inventé le velcro. Velours crochet. Velcro. Et ouais, on a tout dans la nature. Alors cette plante, elle est extraordinaire. Elle est étonnante. Elle a donc, en plus, cette propriété de faire du velcro. C'est une plante médicinale très renommée. En Asie, ils l'utilisent beaucoup pour tous les problèmes de peau, eczéma, herpès, furoncle, acné. La racine, on fait une pommade et elle est très très utile pour beaucoup de maladies de peau. En cosmétique aussi, on l'utilise aussi. Et surtout, elle est comestible.
J'allais dire, c'est la bardane, ça me dit quelque chose. C'est
la bardane. Elle est très proche de l'artichaut. Elle a goût d'artichaut, elle a les mêmes vertus pour le foie que l'artichaut. Elle contient de l'inuline et elle est très très utilisée. La moelle de cette plante est délicieuse, aussi bien crue que cuite. Il y a quelques plantes toxiques, mais bien toxiques, hein, celles qu'on ne mange qu'une seule fois. Il y en a d'autres qui sont indifférentes et il y en a quelques-unes qui sont excellentes, comme la salicorne, la bête, le fenouil, le céleri. On en a vu déjà une bonne dizaine, hein,
là, de
plantes
temps,
dont
là,
on peut se nourrir.
Sur peu de distance.
Ah oui, oui, oui. Ça, c'est un parcours que j'aime beaucoup. J'organise régulièrement des sorties toutes les semaines, là, en été, pour les gens, pour leur apprendre à ouvrir les yeux, à regarder un peu la nature d'une façon plus accueillante, plus ouverte. Pour beaucoup de gens, la nature, c'est hostile, c'est à détruire et tout, alors que...
Faut s'habituer, quoi. Faut à ouvrir les yeux, à regarder.
Ouais, ouais, ouais. Donc moi, j'essaie d'éveiller un peu le regard, j'attise le regard des gens. La plante boussole, ça, c'est extraordinaire.
La plante boussole.
Pour la fin, on va la garder pour la fin. Faut regarder la disposition des feuilles. Les feuilles, elles sont nord-sud.
Ouais.
Elles s'efforcent de se mettre dans l'alignement nord-sud.
D'accord.
Et ça, c'est parce qu'elles poussent au mois de juin. Il y a de l'herbe partout, donc elles essaient de se frayer un chemin. Donc déjà, en plus, elles se mettent un peu à la verticale, comme ça. Et le matin, comme ça, elles ont l'ensoleillement du matin, en juin, plein est.
Mm-hmm.
Toc, elles reçoivent au maximum l'ensoleillement du matin. Le midi, quand le soleil est à la verticale, elles ont trop chaud, donc elles sont pratiquement à la verticale, elles ont très peu le soleil. Et l'après-midi, elles recommencent la photosynthèse, les capteurs solaires, paf, plein soleil. Voilà, donc c'est vraiment une plante qui est géniale. Elle pousse à toute vitesse. Elle démarre en juin et elle peut atteindre 2 mètres de haut, comme ça, en un mois, la plante boussole. Son vrai nom, c'est la Lettuce cariole. Tiens, on ne l'avait pas vue encore, la moutarde. Voilà, voilà. La moutarde. Alors, ça pique un peu ? Faut en prendre plus, faut mouiller.
Mmh, on retrouve le goût.
Donc avec ces plantes, on fabrique la moutarde. Oh, si ça pique. Donc on les récolte. Ça pique. On les met dans un grand sac, puis on compresse et tout. Ensuite, avec un mortier, un pilon, un peu d'huile, on écrase les graines. C'est costaud, hein. C'est très dur comme graine. Et on ajoute un petit peu d'huile, de vinaigre, de sel et de poivre, et on obtient sa moutarde artisanale, à l'ancienne. Voilà. Dans la nature, on a tout ce qu'il faut. Du poivre, de la moutarde, des condiments. Ouais, le littoral est très très riche.
Moment unique. Sortie nature avec Anne Richard sur la presqu'île de Foura.
Je rêve de sorties silencieuses, où on n'entend que le bruit du vent dans les arbres, le bruit de la mer, les oiseaux qui chantent, où on ouvre grand les yeux.
C'est agréable, on ouvre grand les yeux, les oreilles.
Ouais, le nez, les bonnes odeurs, et la bouche.
Et comment vous êtes venu à aimer les plantes? C'est depuis toujours?
Je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est mon père qui m'a donné le goût de la nature. Toutes les vacances, on partait en camping-car. C'était un précurseur, mon père, du camping-car. On allait en Provence, dans les Pyrénées. Et on allait à la découverte. On marchait beaucoup dans la montagne et partout. Et puis on regardait les plantes. Les papillons, j'aimais beaucoup les papillons aussi, dans mon enfance. Et puis, ce que j'aime bien avec les plantes, c'est comment on est sûr de les trouver. Quand on fait des sorties oiseaux ou insectes, oui. Il suffit qu'ils fassent mauvais, on voit rien. Alors que les plantes, on est sûr de les trouver. Mm-hmm. C'est des belles rencontres. Et les groupes, les gens qui viennent aux sorties sont très curieux de découvrir. Ouais. De plus en plus, j'assiste vraiment à un regain d'intérêt de la part des gens, du public, pour tout ce qui est naturel. Et les plantes qui poussent dans la nature, elles poussent donc spontanément où elles veulent, où elles ont envie de pousser, là où elles sont bien, elles se sentent bien, donc elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ces plantes, elles sont là pour nous aussi, pour notre santé, pour nous nourrir ou nous soigner.
Et à la base, vous venez de Mont-Saint-Michel, vous disiez?
Ouais, je suis normande.
Alors comment vous avez fait pour passer la Normandie?
On a vécu en Bretagne, j'étais guide naturaliste en Bretagne, dans le Morbihan, Bretagne Vivante, l'association, ouais. Et puis mon mari a eu une mutation et on est arrivé avec la famille en Charente-Maritime en 97. Et j'ai créé mon association à Fleur de Marée Balade Nature il y a 11 ans à peu près. Et puis voilà, petit à petit, c'est sympa. Ça me plaît bien. Et alors, à la demande de beaucoup de participants aux journées, en 2007, j'ai commencé à écrire des livres. Alors j'ai rencontré un prof du lycée hôtelier de La Rochelle, Pierre Vaillant, et avec lui on a écrit deux livres sur la cuisine des plantes sauvages.
D'accord.
La cuisine des plantes sauvages, avec 90 plantes sauvages comestibles et des bonnes recettes. Et puis moi de mon côté, j'ai aussi voulu faire un herbier de plantes sauvages comestibles, communes, qu'on peut récolter près de chez soi, dans la nature ou partout. Donc je les ai présentés, j'ai fait des grandes planches de 50 cm de haut. Et quand je suis allée voir l'éditeur, je lui ai présenté trois planches. Il a téléphoné à sa secrétaire, on signe tout de suite. C'était gagné, ouais. Et puis les planches sont très belles et j'expose ces planches dans les médiathèques. Comme il y a un livre à l'appui, mon herbier savoureux. Et je donne à chaque fois une petite recette très simple, facile à réaliser, économique et savoureuse, bien sûr. C'est passionnant, c'est vrai que c'est une passion que j'ai eu la chance de pouvoir exprimer et développer dans la petite association que j'ai créée là il y a 11 ans, à Fleur de Marée Balade Nature. Et donc c'est très, très varié, très riche, j'aime bien.
Alors, on va arriver au bout de la digue et c'est la plage de l'Espérance là qu'on rejoint.
C'est ça, la plage de l'Espérance. Oh, on est pas mal, hein. Derrière c'est le quartier du Paradis, moi j'habite entre l'Espérance et le Paradis, c'est bien. On est bien à Foura. Il fait bon vivre à Foura.
Voilà, nous arrivons au bout de notre petite balade.
Voilà, bien agréable, bien vivifiante. L'air de la mer, ça tonifie.
Merci bien pour cette belle balade.
Oh. Voilà.
J'arrive.
Tu vois, tout le monde arrive en même temps.
Ouais.
Bon, j'ai mangé plein de plantes.
T'as mangé plein de plantes? Qu'est-ce que t'as mangé?
Du céleri sauvage. La moutarde.
Ah, il y a de la moutarde?
Ouais, les graines de moutarde, du masseron, bon, la salicorne, l'oreille de cochon.
L'astère maritime.
Et puis, je crois que j'en ai pas oublié, hein, j'ai tout dit.
C'est déjà pas mal. Hein.
Et le fenouil, et l'aubion. Et la citronnée aussi, la criste marine.
Vous voulez venir boire quelque chose à la maison? Du kéfir.
Ah, volontiers. Ah, ou du kéfir, oui.
Le kéfir est bien mérité, car de parler avec le vent et en marchant, cela assèche. Je tiens à remercier du fond du cœur Anne pour cette balade naturaliste en bord de mer. Un beau moment de partage, d'échange et d'enrichissement. Merci beaucoup Anne pour cette sortie et le petit kéfir. De cette plage de l'Espérance, nous allons tranquillement remonter par la côte sud à la découverte de la presqu'île de Foura et c'est sur le chemin côtier que je vous propose de nous retrouver lors de notre prochain rendez-vous. Au revoir et à très bientôt sur cette même antenne pour la suite de nos rencontres sur cette presqu'île de Foura.
C'est la fin de ce 17-18 en direct sur les ondes de Radio Présence Figeac. Merci à toutes et à tous de votre écoute fidèle et rendez-vous dès lundi pour un prochain direct local. Armand Gall, ravi de vous avoir accompagné. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end en notre compagnie.